essayé de vous faire passer la passion que j'ai pour mon travail, hein, essentiellement. Oui, je veux remercier Alain qu'on ait fait le. Si je suis là, c'est bien à son. Grâce à lui. Et puis je veux remercier aussi Jérémy Coppa parce que, bon, bah, écoute, on est parti ce matin à 9h de Quimper. Sans l'intelligence et l'ouverture d'esprit de tous mes chefs, eh bien, je serais sûrement pas ce que je suis et je ne serais pas là non plus. Et voilà, ben, je tenais à dire que Jérémy Coppa, ben, c'était bien, c'était une ouverture d'esprit et moi, je suis contente de faire partie, je suis fière et contente de faire partie de cette société. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Enfin, tout ce que je fais là est dans le cadre de mon activité. Voilà, bon, ben, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais vous parler de pommes de terre. J'ai envie quand même de vous demander pour savoir, parmi d'entre vous, il y a des agriculteurs sans doute ? Oui, tous ?
Bon.
Des jardiniers et des agriculteurs. Bon. Donc. C'est déjà bien. Dans le jardin, oui, les pommes de terre. En grande culture, oui, non ?
Je fais des pommes.
De l'élevage. Bon, voilà. Donc, je pense qu'on est dans un des bassins de France où il n'y a pas, des grands champs de patates. Hein. Je ne me trompe pas. Hein, voilà. Alors, mon idée était d'avoir un fil conducteur et de prendre des termes qu'on entend un petit peu partout dans les médias, des termes que je dirais un petit peu à la mode, parce que on entend beaucoup de choses, et puis il y en a d'autres qui reviennent plus fréquemment. Et puis quelquefois, je pense qu'on met pas, on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière les mots qu'on entend dans la presse. Voilà. Donc, je voulais parler de milieu, de vin dieu, de milieu, au travers de ces termes et vous illustrer donc ce qu'on peut entendre de la notion de biodiversité, la notion de durabilité. Enfin, je mets tout pêle-mêle. La notion de protection raisonnée, et puis on parlera un tout petit peu de biotechnologie. Alors, je ne sais pas comment vous avez l'habitude de fonctionner. Enfin, moi, ça ne me dérangerait pas que vous posiez des questions, mais c'est peut-être mieux que je parle. Enfin, c'est vraiment si vous avez envie de fouiller des aspects plus particulièrement, vous pouvez m'interrompre, hein, parce que voilà. Et puis j'ai repris des images sympas de la patate au travers des fleurs. C'est bien ça, on ne s'en occupe pas en général, mais la fleur est déjà très sympa. Et puis les tubercules, quand ils sont beaux comme ça, ben c'est sympa aussi. Voilà. Alors bon, c'est vrai qu'on va refaire un petit peu l'historique de la pomme de terre. Depuis plus de 8000 ans, les Amérindiens devaient cultiver cette espèce végétale, vraisemblablement, hein, tout dans cette partie de l'Amérique du Sud. Il y a effectivement des éléments qui permettent de dire que depuis plus de 8000 ans, c'était la niche écologique de la pomme de terre. Et eh bien pour nous, on va dire, du vieux continent, l'histoire commence seulement à partir du XVIe siècle, en fait, hein, quand les Espagnols et les Portugais vont à la conquête du Nouveau Monde. Et quand ils reviennent, c'est vrai qu'ils nous font un sacré cadeau en revenant dans les années fin du XVIe siècle, qui reviennent dans les bateaux chargés avec des tubercules. Donc voilà, ça pouvait ressembler à quelque chose comme ça. Il y avait sans doute dans les mâles des tubercules de cette forme-là, de cette couleur. Bon, vous ne les voyez peut-être pas. Mais je pense que c'était vraiment un sacré cadeau qu'ils nous ont fait de ramener ça dans le vieux monde. Sachant que, bon, je vais faire des raccourcis, mais il n'y a pas eu qu'un voyage. Il y a eu au fil des quatre siècles passés de nombreux voyages, enfin, des voyages. On va parler d'introduction. Hein. La pomme de terre est venue dans l'ancien monde à différentes reprises et dans différents lieux. Puisqu'il y avait tous les pays du vieux continent, eh bien chacun allait à différents endroits d'Amérique du Sud. Alors sur ce croquis qui nous vient de la fin du XVIe siècle, un dénommé Caspar Bohain, qui a dressé une belle planche comme ça de ce qui arrivait en Europe, on peut juste attirer l'attention là sur ce qui fait la différence par rapport à ce qu'on a actuellement, à ce qu'on trouve actuellement, c'est des très très longs stolons. En fait, ce qu'ils amènent en Europe, c'est des pommes de terre qui ont la caractéristique de produire, en tout cas dans nos régions, ça fait de très très gros stolons. Et puis vous voyez la forme du tubercule qui est toute cabossée, qui ressemble plutôt à un rhizome, à un igname, à tout sauf ce qu'on connaît maintenant de la pomme de terre. Alors ça, c'est vraiment vraisemblablement comme ce type de pommes de terre qui ont été introduites en Europe. Alors, bon, les témoignages qu'on a après, eh bien, ça date, pour ce qui est de la France, Jean parlait de Linné, donc c'était le clin d'œil du botaniste qui a décrit un grand nombre d'espèces végétales, mais on doit aussi beaucoup de choses à Olivier de Serres et qui, ben voilà, il n'y a pas de hasard, c'était le théâtre de l'agriculture, donc c'était le théâtre de l'éprouvette, tout ça devait être réuni. En 1610, après Diderot en a parlé. Bon, je ne vais pas passer en revue toutes les traces qu'on a dans les traces écrites qu'on retrouve. Juste pour dire, par exemple, Diderot écrivait, oui, bon, on la trouve farineuse et fade, et vraisemblablement, elle ne saurait jamais compter parmi les aliments agréables. Donc, c'était effectivement quelque. C'était, vous avez sans doute entendu, on disait, c'était la patate à cochon. Hein, vraisemblablement, au début, c'était ça. Et puis, je l'évoque pas là, mais on va en parler. Bien sûr qu'en France, on doit beaucoup de choses à Parmentier, qui a vraiment usé, qui a été le premier à faire du marketing, et puis qui a su montrer les qualités et comment on pouvait apprécier ce tubercule pour la nourriture humaine. Alors encore une fois, ben voilà, toute cette variabilité, toute cette différence, tout ça a été importé d'Amérique du Sud. Et là, c'est déjà l'illustration de cette biodiversité. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire si on décompose bio, de la vie et diversité, donc tout se mélange. Donc ce mélange-là, il nous, même si certains après l'exploitation qui a été faite dans le vieux continent a été faite avec certaines variétés, donc on a dit que c'était très très limité, mais cette biodiversité, elle est arrivée en Europe il y a 3 siècles, elle est bel et bien arrivée, et puis on verra qu'elle existe bel et bien. Alors elle existe encore et elle est exploitée. Donc voilà, on la retrouve là dans les espèces qui sont dans ce qu'on peut encore retrouver actuellement, même si on n'a pas cette diversité là sur l'étal du supermarché. Voilà. Alors vraisemblablement, donc elles sont venues avec les conquistadors, elles ne sont pas venues toutes seules. Hein. Elles sont venues certainement avec tout le cortège de toutes les maladies qu'on peut connaître, que sans doute vous êtes familiers. Donc là c'est une maladie bien particulière, mais comme c'est un organe que l'on sort du sol, eh bien, inévitablement, il y a plein de choses à la surface du tubercule. Donc vraisemblablement, tous les tubercules qui restaient et qui faisaient le voyage, ils avaient plein de choses qui étaient des maladies de façon inévitable. Pareil pour ce charmant insecte que vous reconnaissez, qui est le doryphore. Ici, c'est des pucerons. Ici, c'est quelque chose pour lesquels vous êtes peut-être moins familier. C'est très augmenté là au niveau grossissement. C'est des petits nématodes, des petits vers microscopiques qui sont un fléau dans certaines régions et avec certaines pratiques. Et puis celui qui va nous intéresser un petit peu plus, eh bien, enfin, c'est pas très évident là, mais c'est le sacré milieu dont on va parler un petit peu plus en profondeur. Donc elles sont bienvenues, elles sont venues avec tout ce cortège de parasites qui sont pour la plupart tout à fait spécifiques de la pomme de terre et de la tomate, puisque juste on peut dire que y a, la pomme de terre est venue, mais la tomate est venue également. Et aussi, même sur France Inter ce matin, ce midi, on en parlait, le cacao est venu. Tout ça, c'était la même niche écologique, et c'est tout ce qui est venu en Europe. Alors, en fait, d'un point de vue botanique, actuellement, dans tous les pays sud-américains, toutes ces espèces existent encore, sont cultivées par les agriculteurs, les Incas, enfin les Péruviens notamment. Toutes ces espèces sont encore de façon sont maintenues et sont multipliées par les agriculteurs. Et c'est d'un point de vue je vais rentrer un petit peu dans le détail. C'est donc la pomme de terre, le nom latin, c'est Solanum tuberosum. Et l'espèce qui est prépondérante en Amérique, c'est l'espèce indigena des Andes. Alors que après l'introduction en Europe, les brassages, donc les agriculteurs, ceux qui ont produit les pommes de terre, se sont mis à domestiquer la pomme de terre en faisant des croisements. Bon, on reviendra sur cet aspect-là. Elle est devenue bien adaptée, alors que celle-ci, cette espèce-là, est adaptée à l'Amérique du Sud, à l'Amérique latine. Il a fallu certains cycles d'adaptation qui expliquent aussi, entre Parmentier et la façon dont était la pomme de terre avant pas bonne pour les cochons, a été améliorée. Donc tout ce travail d'amélioration qui est fait, qui est la mission de notre société, de continuer à améliorer la pomme de terre, eh bien, on ne fait tout simplement que reproduire ce qu'ont fait les agriculteurs dans le temps qui ont commencé à cultiver la pomme de terre. Donc l'espèce qui est cultivée et qui est très bien adaptée à nos latitudes maintenant ici, c'est Solanum tuberosum tuberosum. Et de ce fait, c'est vrai qu'avec tout ce brassage, il y a peu d'espèces cultivées qui embrassent une telle possibilité d'exploitation au niveau de la planète. C'est vrai que on peut schématiser qu'on peut la produire de l'Arctique à la Terre de Feu, et puis à toutes les latitudes et les altitudes, et aussi bien au niveau de la mer qu'à certaines altitudes. C'est vraiment une espèce qui est adaptable, et là, c'est l'illustration de cette espèce végétale qui a un potentiel d'adaptation fabuleux. On pourra en reparler, mais c'est vraiment une espèce très très malléable, et c'est intéressant de voir comment en 4 siècles, eh bien elle est toujours là avec sa diversité, et puis elle est adaptée à nos exigences, à nos conditions de production. Donc, juste pour terminer, je vous parle beaucoup de l'Amérique du Sud. Donc, il faut savoir que dans ce maintien de la biodiversité, eh bien, il est formalisé. Et là, au Pérou, il y a le Centre international de la pomme de terre. C'est un organisme, on va dire, public, et qui collecte, qui maintient une banque de gènes sous différentes formes, et qui maintient cette biodiversité. Donc, pour la pomme de terre, en tout cas, un domaine que je connais bien, j'affirme haut et fort que la biodiversité, elle existe. Elle est exploitable, et elle peut être exploitée par, je dirais, tout un chacun qui sait en faire bon usage. Voilà, et juste pour mémoire, ce principe de banque de gènes, eh bien, il existe pareillement pour le maïs, qui est aussi je ne vous ai pas positionné la pomme de terre, mais la pomme de terre, au niveau mondial, se trouve en troisième, selon les chiffres qu'on exploite, en troisième ou en quatrième position. Le riz, le maïs, pommes de terre et les autres céréales. Donc, c'est vraiment les trois cultures cultures majeures qui font vivre la planète. Hein. Pas suffisamment, évidemment. Alors, juste, je fais un petit retour. L'année dernière avait été déclarée par la FAO, année internationale de la pomme de terre. Effectivement, pour mettre l'éclairage sur tous les pays de la planète que la pomme de terre peut contribuer à résoudre les problèmes de malnutrition. Et bon, on pourra rentrer un petit peu sur cet aspect-là. Donc voilà, c'est une fondation qui est au Pérou et qui entretient cette biodiversité. Alors, j'ai déjà évoqué ça. Pommes de terre, c'est cette grande famille des solanacées. Donc, toutes les petites cousines, c'est les tomates, le piment, l'aubergine, le tabac, le datura, pétunia. Tout ça fait partie de la même famille. Voilà. Donc, espèces tubéreuses, ça va de soi. Mais certaines... Alors, dans cette biodiversité, il y a des espèces qui ne sont pas tubéreuses, donc qui ont les mêmes feuilles, les mêmes fleurs, mais qui ne produisent pas qui ne font pas cet organe de réserve dans le sol. Donc il faut le préciser. Et puis c'est une alors j'emploie un terme savant, la tétraploïde, ça veut dire que nous sommes donc diploïdes, ça veut dire que nos stocks de chromosomes, là où est notre patrimoine héréditaire, chaque chromosome est présent dans nos cellules avec une copie de 2. Hein, et nos gamètes, c'est-à-dire nos cellules de reproduction, alors l'ovule chez la femme, le spermatozoïde, ne comportent qu'un jeu des chromosomes. Donc, je vous fais faire de la gymnastique, là, les histoires de recombinaison. Quand on est diploïde, eh bien, bon, on sépare le jeu des chromosomes et puis ça fait un certain nombre de combinaisons. Donc, dans la fratrie, on a un certain nombre de représentants de ces combinaisons dans une fratrie. Donc, la génétique humaine, d'un point de vue calcul, puisque la génétique fait appel à des données mathématiques, c'est relativement simple, on va dire, dès lors qu'on a affaire à des organismes qui sont diploïdes. Sur la pomme de terre, c'est tétraploïde. Ça veut dire que chaque gamète, enfin, ça fait des combinaisons par 4. Ça veut dire que quand on croise, on a une multitude, quand on croise de façon sexuée, c'est-à-dire par la fleur, ben, je vous montrerai, vous allez voir comment ça se passe dans un petit film, puisque la caractéristique de la pomme de terre, telle qu'on la cultive, c'est ce qu'on appelle une multiplication végétative, puisque vous plantez le tubercule, on récupère des tubercules, c'est clonal. C'est comme quand vous prenez votre morceau de géranium, que vous en faites des petits morceaux, des boutures, c'est du clonage en fait. Donc il y a la pomme de terre, vous la plantez en terre et c'est la variété la Binche, ou je ne sais pas quelle variété vous connaissez ici, ou Charlotte par exemple, eh bien vous plantez de la Charlotte, vous récupérez de la Charlotte et ainsi de suite dès lors que vous allez garder ces tubercules là. Donc il n'y a pas la génétique de cette variété là ne se modifie pas. Pour modifier, pour découvrir autre chose, faire des hybrides, il faut passer par la biologie florale. Donc on va faire avec le pollen, etc. Bon, on le reverra. Mais ça veut dire que ça fait des combinaisons très très importantes et c'est très compliqué. Alors je rentre pas plus dans le détail, mais c'est un aspect important qui fait qu'on ne sait rien prédire dès lors que l'on crée des hybrides. Et ça veut dire que c'est pour redire a posteriori tout le travail de sélection qui est un travail long d'observation des agriculteurs pour améliorer des espèces. C'est un travail de très longue haleine parce qu'il faut replanter, observer, garder, replanter, et ainsi de suite, sachant que chaque année, on ne produit la pomme de terre que pendant 3 mois. Donc voilà, le travail de sélection et d'amélioration de la pomme de terre est très long. Voilà, donc juste quelques que le bon, ça vous le savez, parmi les caractéristiques, enfin c'est l'amplitude de la de ce qu'on peut voir de différent chez la pomme de terre. Je parle juste là du cycle. Une pomme de terre, je vous parlais de 3 mois. Eh bien, en 2 mois, certaines variétés peuvent faire leur rendement, et d'autres, il faut attendre quasiment 4 mois pour avoir le rendement. Bon, je reviens juste pour illustrer juste ce cycle et le rappeler peut-être pour ceux d'entre vous qui n'ont pas trop l'habitude dans leur jardin ou voilà, qui ne prennent pas trop le temps de faire pousser des pommes de terre. On met le tubercule en terre, à l'endroit des yeux, eh bien, les germes se développent. Et puis, on a toute une phase donc, de feuillage aérien. C'est vrai que c'est un mode de production végétale intéressant, c'est-à-dire qu'il y a synthèse grâce à la photosynthèse, à la lumière, il y a formation d'amidon. Et puis cet amidon migre dans les tubercules et vient faire grossir les tubercules. Et puis c'est un doux équilibre entre des vases communicants, entre le feuillage et le tubercule. Et puis au bout de 2-3 mois, le feuillage devient sénescent. Et à ce moment-là, eh bien, on va récolter les tubercules qui seront absolument strictement identiques à ceux qu'on aura plantés. Au bémol près que, en fait, toute cette partie aérienne, en fait, toute cette exposition aérienne du cycle fait que le feuillage est en proie à plein de micro-organismes qui vont venir déranger et contrecarrer, en fait, la qualité du tubercule. Alors, bon, on va reparler du mildiou, mais juste j'évoquerai ici, on a vu tout à l'heure, je vous ai montré juste en exemple des parasites, les pucerons. Eh bien, les pucerons, ils sont embêtants sur la pomme de terre parce qu'ils vont faire des choses que vous ne voyez pas nécessairement, mais ils vont transmettre des virus allant de plante en plante, en venant piquer sur le feuillage de la pomme de terre, ils vont transmettre des virus. Et ces virus vont être circulants dans la plante et vous allez les retrouver là. Et c'est ce que vous constatez peut-être après avoir réutilisé plusieurs fois vos petits tubercules pour les replanter l'année suivante. Eh bien, au bout de plusieurs années, vos plantes ne donnent plus ce que vous aviez vu 3 ou 4 ans plus tard. Donc, c'est tout simplement, la variété n'a pas changé, mais le tubercule s'est chargé de virus pendant la période de végétation. Alors voilà, on arrive à notre agent du mildiou, qui est en fait on parle de champignons de moisissure, mais c'est ni l'un ni l'autre. En fait, c'est une algue microscopique sans chlorophylle. Donc une fois qu'on dit ça, eh bien on comprend que c'est des agents, des organes de dissémination microscopiques tout petits qui vont être facilement disséminés par le vent. Et puis dès lors qu'on parle d'algues, ben tout de suite un environnement climatique qui peut assez spontanément sembler favorable à cette algue, eh bien, enfin, je sais pas moi ce qui me vient dès lors que je dis algue, eh bien, si je parle d'eau, ça fait assez écho à algue. Et en fait, voilà, en disant ça, on résume la problématique de cette algue, mais pour faire plus simple, je vais dire champignons aériens, parce que c'est vrai que ça fait curieux de parler d'algues, donc c'est pour les puristes, voilà, c'est dit, mais c'est vrai que c'est plus simple de parler de champignons. Et bien, une fois qu'on a dit ça, champignons, aériens, des organes très très fragiles, de très très fins de dissémination, et bien, on a tout compris et on sait que c'est un parasite qui peut tomber dessus, qui peut arriver dès lors qu'on a un peu d'humidité constante dans la culture de la pomme de terre. Hein, voilà. C'est dès que vous avez eu 2-3 pluies, attention, les tomates et les pommes de terre vont souffrir dans le jardin. Voilà. Alors, c'est vrai que l'originalité, une fois qu'on rentre dans le détail de ce parasite-là, il est spécifique de la pomme de terre. C'est déjà un élément unique dans le sens de la façon dont il est foudroyant. Vous pouvez avoir des carottes, des salsifis, des navets dans votre potager. Vous savez que, eh bien, votre pomme de terre, elle va prendre. C'est la seule espèce cultivée qui va prendre cette maladie-là. D'autres, par extension, on va parler de mildiou pour d'autres types d'altérations, mais ça ne sera pas les mêmes parasites. Vraiment, pour la pomme de terre et la tomate, c'est le même agent qui va contaminer, qui va pouvoir potentiellement détruire votre carré de pommes de terre si vous ne prenez pas les mesures qu'on va évoquer après. Et c'est bon élément intéressant, c'est ce qu'on appelle un parasite obligatoire, c'est-à-dire que vous avez sans doute des hivers rigoureux ici, mais bon an, mal an, vous replantez au mois de, je sais pas à partir de quand vous pouvez planter ici, à avril-mai, eh bien, dès que le feuillage est sorti, le risque est là. Donc, comme il n'y a pas de génération spontanée dans la nature, c'est l'inoculum, il était quelque part dans un champ, sur un tas de fumier. Parce que cette maladie-là a besoin d'être sur la pomme de terre pour survivre et passer l'hiver. Donc, quelque part, il y a un tubercule, il y a un morceau de tige, enfin, d'épluchure qui est resté, et ça suffit pour entretenir la maladie d'une année à l'autre. Alors juste pour, je reprends là, il y a quelques années, j'avais découvert cette planche dans une encyclopédie qui datait du début du XXe siècle. Et je veux simplement illustrer par là que sur cet aspect-là, bon, on n'a pas fait beaucoup de progrès. À cette heure-ci, on peut dessiner exactement les mêmes choses. En 100 ans, on n'a pas fondamentalement progressé. Enfin, on a progressé sur certains aspects, mais voilà ce qu'on en... Enfin, on va revoir un petit peu dans le détail. Et puis, c'est vrai que dans cette encyclopédie, il y avait des tas de recommandations. Et c'était très amusant parce que finalement, il y a 100 ans, on savait déjà le béaba et ce qu'il fallait faire et surtout ce qu'il ne fallait pas faire. Alors, deux éléments, deux périodes très, très importantes. En fait, on a commencé à parler de cette maladie-là en Europe dans le courant du 19e siècle, et on a tous entendu parler de cette famine en Irlande, hein, en 1845. En fait, c'était la première fois. Donc, vous voyez, on a parlé de l'introduction de la pomme de terre au XVIe siècle. Et donc, s'est écoulé, plus de 200 ans avant qu'on découvre, qu'on ait connaissance de l'action du mildiou dans les cultures de pommes de terre. Alors, il y a une autre explication qui fait que, on le sait, il n'y avait pas, il a fallu attendre la fin du 18e et le début du 19e pour avoir des quantités importantes de cultures de pommes de terre en Europe. Les petits endroits où les petites poches où il y en avait ne suffisaient pas à détruire, et puis ça restait des poches. Dès lors qu'un petit potager d'un château devait conserver, si 2-3 pieds étaient touchés, bon an, mal an, encore une fois, c'est l'illustration de comment la pomme de terre a réussi, malgré tous ces bio-agresseurs, a réussi à passer au travers et à survivre, hein, dans l'environnement, même lorsqu'il lui est très, très opposé. Mais donc, dès lors que la pomme de terre a été cultivée en grande quantité, eh bien, elle a été très vulnérable. Et il y a cette date mémorable en Irlande, en 1845, d'un été qui a été pourri. Il a plu, il y avait des grandes surfaces, et le mildiou a complètement tout détruit. Et ce que je voulais juste faire le pendant, ce qui est intéressant, c'est que... Enfin, ça m'amuse quand j'ai un petit peu de temps pour faire autre chose. Alors, je lis des choses qui se rapprochent de toute façon. J'ai toujours des mots-clés qui m'intéressent. Donc, c'est pommes de terre, c'est autre chose. Enfin, ça tourne malheureusement toujours autour de la même chose. Alors, en Irlande, en 1845, et là, sûrement vous n'en avez pas entendu parler, mais peu importe, je vous en parle moi ici d'un... Il y a 7-8 ans, ont été retrouvés des cahiers de Jean-Marie Desguinets, né en 1834, mort en 1905. Ont été retrouvés des cahiers dans un grenier près de Quimper de ce Jean-Marie, dont vous avez la photo là, et qui donc est sorti un pavé comme ça sur... en fait, tous ces cahiers ont été retranscrits, mémoire d'un paysan bas-breton. Alors, je voulais juste vous lire ce qu'il disait. Voilà un chapitre. La mort des pommes de terre. Cette année 44, donc 1844, fut encore assez bonne pour nous. Les abeilles avaient multiplié comme l'année précédente et les pommes de terre donnèrent un bon rendement dans ce coin de terre sauvage qui avait coûté beaucoup de sueur à mon père pour le défricher. Mais hélas, pour les pommes de terre, ce fut la dernière année. Elles devaient disparaître pour toujours l'année suivante. Du moins, cette grosse race de pommes de terre rouges, la seule connue dans notre canton en ce temps-là. Il n'y eut alors que cette race de pommes de terre sur notre petit globe, on aurait pu dire adieu les pommes de terre. Donc, juste pour dire que ce qui se passait en Irlande en 44-45, se passait, et ça, si on regarde un petit peu la géographie, c'est pas surprenant. Dans la pointe de la Bretagne, on a le climat très océanique comme l'Irlande, mais voilà ce qui se passait. Donc, quand j'aurai un peu de temps libre pendant quand je serai un petit peu plus tranquille, eh bien, je continuerai à fouiller dans les écrits. Je trouve que c'est passionnant d'avoir ce témoignage. Je lisais ça avec un crayon. C'est vrai que la pomme de terre, juste entre parenthèses, pour les Bretons, a toujours été une nourriture très importante, mais on fouillerait dans les archives ethno-rurales de bien d'autres régions. Je pense que c'est le cas un peu partout. Donc voilà comment ce parasite a commencé à faire parler de lui, donc il y a plus de 150 ans. Alors, comment ça se passe effectivement? Eh bien, je vous ai expliqué tout à l'heure que de toute façon, le parasite, il doit survivre sur la pomme de terre. Sur la tomate, c'est pas la peine d'y penser parce que qu'est-ce qui peut rester pendant l'hiver? C'est des graines de tomate sur un tas de fumier et là, le champignon ne s'y développe pas. Donc, c'est vraiment la pomme de terre, le tubercule de pomme de terre qui entretient, qui fait le réservoir pendant l'hiver, donc il se trouvera soit sur des tas de déchets, soit dans le sol parce qu'il n'aura pas été récolté l'année précédente. Et puis, il n'a pas été suffisamment détruit. Donc, au printemps, eh bien, il va émettre une pousse. Et puis, cette pousse, elle sera tout de suite contaminée. Alors, quand on sait que... Voilà l'illustration. Si vous regardez ça... Voilà une spore. Donc, je vous parlais de ces toutes petites spores qui sont microscopiques. Dès lors qu'elles rentrent soit dans du feuillage, soit dans du tubercule, et qu'il y a de l'humidité, il faut qu'il y ait de l'eau constamment, eh bien, une spore rentre, et vous avez tout de suite du mycélium. Donc, le mycélium, vous savez que c'est ces filaments qu'on retrouve sur le camembert. Si vous regardiez le camembert sous la bino, eh bien, c'est du mycélium, c'est des filaments très, très fins. Donc, c'est la même chose ici, c'est du mycélium, mais chargé avec ces spores. Donc, il y en a une qui est rentrée, et on peut dire là, en l'espace de 7 jours, le taux de multiplication, il est de 1 à 1 million de spores. Donc, rien que ça explique comment ça prend le feu dans un jardin, dans une parcelle, par foyer. Mais si la pomme de terre est là, si l'inoculum est là, Et s'il y a de l'humidité pendant 3-4 jours, bien ça y est, voilà, la maladie se disperse. Et là, la meilleure des choses, c'est d'enlever le feuillage. Donc, voilà très simplement, une fois qu'on sait ça, on comprend très vite le cycle. Et puis, donc, la phase terminale pour boucler le cycle, c'est des spores se trouvent sur le feuillage, il pleut. Donc, dès lors que vous avez des tubercules néoformés, on va dire, de l'année en cours, eh bien, les spores vont tomber, vont migrer avec les gouttes d'eau dans le sol. Et puis, voilà, nouvelle génération. Donc, c'est votre tubercule qui est touché, qui va permettre la survie du champignon pendant l'hiver. Voilà. Voilà, alors plus d'un siècle de lutte contre le mildiou et la partie n'est toujours pas gagnée. Le problème est le même qu'il y a 200 ans. Voilà. Mais bon, vous allez me dire, on arrive à produire des pommes de terre. Alors pourquoi on arrive ? Alors, on arrive, je suis bien obligée de constater, de dire. Alors, il y a des méthodes, ce qu'on appelle des méthodes culturales, c'est-à-dire ce qu'on appelle prophylaxie. Je vous ai dit que l'inoculum, il était dans votre champ si l'année précédente, vous aviez fait des pommes de terre et qu'il y avait eu un petit peu de mildiou, donc il est dans votre champ. Donc, le bon sens veut qu'on change de coin, donc c'est ce qu'on appelle la rotation. Donc voilà des méthodes, bon, mais à elles seules, elles ne suffisent pas si, toujours pareil, hein, si les conditions climatiques sont très favorables. Ce qui a sauvé et ce qui a permis dans beaucoup d'endroits que la pomme de terre se développe, eh bien, c'est les méthodes chimiques, hein. Donc j'ai juste commencé la liste avec la bouillie bordelaise parce que ça a commencé comme ça. Et depuis, eh bien, c'est vrai que c'est un domaine d'activité qui intéresse beaucoup les agrochimistes parce que le modèle pomme de terre mildiou, eh ben, c'est un sujet qui leur plaît et qui indirectement ben, nous profite. Mais on est encore pour produire des pommes de terre dans toute l'Europe, tout à fait tributaire des aspects de l'outil chimique, hein, et la méthode génétique. Hein. Alors, la méthode génétique, eh bien, c'est ce qu'on fait, c'est ce que font tous les sélectionneurs, et c'est ce qui a été fait depuis plus de 100 ans, en fait, dès lors qu'il y avait cette invasion. Donc, bon, là, je vous illustre ce qu'on appelle des repousses. Donc, ça, c'est un champ de maïs, et on voit la pomme de terre qui pousse parmi le maïs. Donc, c'est ça, les repousses, hein. Et dès lors qu'un pied était contaminé par le mildiou, eh bien, les tiges vont l'être aussi. Voilà, bon, c'était juste pour illustrer ça. Alors, la méthode génétique. La méthode génétique, elle consiste, c'est un mot bien savant, mais tout simplement, c'est d'aller chercher des variétés qui sont naturellement moins sensibles à la maladie, et ça existe. Hein, il y avait des espèces, je vous ai parlé d'autres espèces proches de la pomme de terre. Il y a tout au début du XXe siècle, à partir des années 1900-1910, tous les Européens, que ce soit les Allemands, les Français, les Anglais, ils ont tous essayé de trouver des variétés, des espèces résistantes au mildiou. Et ils en ont trouvé parmi une espèce qui s'appelle Solanum demissum et qui fait dans un champ... c'est pas très, très net... vous imaginez ici, enfin tout le reste ici, là, tout ça est grillé par le mildiou. Et voilà une espèce, ça a été contaminé artificiellement, enfin peu importe, c'est en Bretagne, hein, c'est dans des champs cette année, là. Et bien voilà une espèce qui a résisté. Donc le travail de la génétique consiste à dire, eh ben, prenons cette variété-là, on va la croiser avec une autre, et puis on va espérer que ce caractère-là ait été transmis dans les hybrides. Alors, on reviendra après, je vous passerai un petit film qui vous explique où tout ça est illustré. Alors, il y a ce qu'on appelle des mots savants. Ici, on est après 120 jours de la culture. Hein. Ça veut dire que ce feuillage, il a été entouré bien qu'ayant été entouré de mildiou tout autour de lui pendant toute la saison et avec de l'humidité à souhait, eh bien, tout le reste était détruit, mais cette espèce-là, elle a tenu le coup. Alors, ici, vous avez, donc c'est ce qu'on appelle une résistance totale, c'est-à-dire que le mildiou, ben, il ne sait pas reconnaître, il ne reconnaît pas cette variété-là, et pourtant, c'est une pomme de terre comme toutes les autres. Elle a seulement la caractéristique d'être un peu plus tardive, et elle fait son rendement au bout de 120 jours, mais le mildiou, curieusement, et on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de reconnaissance. Mais voilà, c'est une résistance totale. Et quand on s'amuse, donc quand on essaye, quand on croise ça, cette variété-là, avec des variétés un peu plus sensibles, eh bien, on peut espérer trouver des enfants qui seront aussi sensibles, mais certains seront partiellement résistants. Alors, je rentre un petit peu dans ce détail, parce que ce qui se passe, en fait, et ce qui s'est passé depuis le début du siècle passé, où les travaux de sélection ont été faits, c'est que si on se met à produire des variétés qui se comportent comme ça par rapport au mildiou, et qu'on est dans un environnement où il y a tous les ans, bon an, mal an, des pressions de mildiou, c'est-à-dire qu'il suffit de quelques spores sur un feuillage et que les conditions climatiques sont là, eh bien, le mildiou, cette algue, avec cette capacité qu'elle a à se multiplier, à se reproduire, eh bien, au bout de 10 ans, dans ce qui aura... il y aura quelques spores qui auront réussi à pénétrer, elles vont s'adapter, elles vont ce qu'on appelle contourner la résistance. C'est-à-dire qu'on s'amuserait là, à cette heure-ci, dans des zones où la pression est très très forte, comme en Bretagne, à ne cultiver que cette espèce-là, cette variété-là, et bien au bout de 10 ans, en admettant qu'il y ait du mildiou constamment tous les ans, et bien au bout de 10 ans, même peut-être même moins, eh bien, le mildiou aura réussi à l'attaquer malgré tout. Donc, si on essayerait de réfléchir au niveau de l'algue, eh bien, elle mène la danse. Enfin, je veux dire que ce champignon mène la danse. Il sait contourner, il sait se débrouiller pour survivre et contourner tout ce qu'on va lui mettre pour l'empêcher de se reproduire. Je ne sais pas si vous réalisez la capacité d'un tel micro-organisme qui, quoi qu'on lui mette sur le nez, eh bien, il se débrouille pour survivre. Donc, je ne vais pas pousser trop la comparaison anthropomorphique, mais c'est quand même relatif. Enfin, c'est un complexe hôte parasite très intéressant parce qu'il se débrouille pour survivre. C'est vraiment de la survie. Et je vais continuer le parallèle. Je vous ai parlé qu'on arrive à on arrive à échapper et à produire avec les produits chimiques. Eh bien, le champignon fait pareil avec certains types de produits chimiques. C'est-à-dire que si on lui met une fois, une année, un certain type de produit, la deuxième année, on continue, on lui met le même type de produit. Et ben, la troisième année, vous pourrez toujours mettre du produit et vous verrez que ce parasite, il saura se développer. Donc, la population, pareil, de mildiou, sait se débrouiller pour résister à certains types de produits chimiques. Donc, sur cet aspect-là, les agrochimistes, ils savent quels sont les types de molécules que le mildiou va contourner. Donc, l'idée, c'est de faire des produits qui... l'idée, c'est surtout... c'est des produits qui protègent et qui évitent que le mildiou... qui font une barrière pour que le mildiou ne rencontre pas le feuillage. Dès lors que le mildiou est dans la plante, eh bien, c'est pas la peine de lui mettre des produits. Il saura s'adapter et devenir résistant. Donc, voilà un micro-organisme qui lui-même, il a plein de biodiversité puisqu'il sait s'adapter à tout ce qu'on va lui mettre. La seule solution un peu farfelue serait de croiser avec, je sais pas ce que je vais vous dire, le tabac. Voilà. On va essayer de croiser la pomme de terre avec le tabac en espérant que dans les croisements, les cellules soient encore capables de faire des tubercules puisque le mildiou, il n'attaque pas le tabac. Voilà. Enfin, c'est, hein? Donc on n'est pas sorti de l'auberge.
Alors, comme ce que vous voyez que c'est la tâche est rude pour produire de la pomme de terre dans des conditions un petit peu de pression, dans des conditions qui sont favorables au développement de la culture et qui le sont aussi pour ces parasites. Et ça a mobilisé donc cette thématique-là, pomme de terre, mildiou, mobilise la communauté scientifique et technique au niveau de l'Europe. Et ça, depuis 15 ans, je participe à un groupe de travail au niveau de l'Europe. Donc, bon, vous savez ou vous ne savez pas, mais nos plus gros concurrents, ce sont les Pays-Bas, hein, qui produisent beaucoup de pommes de terre, beaucoup de variétés différentes. Mais pour cet aspect du mildiou, eh bien, tous les pays européens sont fédérés, les Anglais, les Irlandais, les Pays-Bas, les Allemands. Il y a vraiment, pour essayer, si on n'arrive pas à trouver des moyens techniques, eh bien, on met la matière grise ensemble et on essaye d'avancer. Alors, bon, là, c'est un graphique qui reprend, qui met l'accent sur les conditions environnementales qui favorisent le mildiou, c'est donc bien le vent, la pluie. Hein. Les vents sont importants pour disséminer aussi sous forme de gouttelettes. Alors, je vais vite passer là-dessus. Donc, bon, voilà comment on peut agir. Hein. Alors, je vais juste là, pour illustrer ce qu'on va appeler protection raisonnée. C'est vrai qu'il a fallu, il faut, je vais tout mettre comme ça, il faut déployer donc d'autres méthodes pour essayer de gérer ce problème-là. Et donc si je résume ce que vous entendez de ma part, c'est beaucoup de produits chimiques. Hein. Bon, on est tous des citoyens, on n'apprécie pas beaucoup ça. Hein. Juste une anecdote pour vous faire comprendre, ma mission première chez Jérémy Coppa, c'est de travailler avec le sélectionneur pour tous les aspects maladies, pour trouver parmi les nouveaux hybrides que l'on va créer des descendants, des hybrides qui sont un peu moins sensibles à différentes maladies, dont le mildiou. Et c'est vrai que une des premières remarques, il y a une vingtaine d'années, quand j'ai pris cette mission-là, le constat était de dire, c'est que quel que soit le niveau de sensibilité d'une variété, les agriculteurs, et je confirme, parce que c'est le type d'agriculture qu'on a depuis une cinquantaine d'années, traite de la même façon des variétés qui sont un peu moins sensibles que celles qui sont sensibles. Donc là, il y a un hiatus. Et bon, ça, c'est, je suis d'un tempérament assez impatient. Ben, je peux vous dire que malgré tous les efforts déployés, ben, au bout de 20 ans, c'est encore une mission très, très difficile de faire changer des pratiques. Hein. Alors, bon, on ne va pas décrypter tous les aspects socio-économiques de la chose, mais c'est compliqué. Donc, la mission première est de créer des variétés un peu moins sensibles, avec tous les autres critères qui sont exigibles pour l'ensemble des filières pour une nouvelle pomme de terre, dont la résistance au mildiou. Et donc, il faut déployer d'autres éléments pour intégrer ce paramètre-là et puis faire avancer le Schmilblick et puis faire qu'on traite un peu moins. Alors, il existait depuis fort longtemps des ingénieurs en France et dans d'autres pays d'Europe dans les années 50. Beaucoup se sont penchés sur la question et ont ce qu'on peut appeler modélisé, ont fait des modèles de l'épidémie de mildiou, c'est-à-dire qu'ils ont enregistré les températures nécessaires au développement du mildiou dans un lieu donné, hein, ont enregistré les températures et l'hygrométrie nécessaire. Donc ils ont pu faire, on va dire, créer des modèles en disant, ben voilà, si il y a une telle température, tant d'humidité consécutive pendant 48 heures, eh bien, et s'il y a du mildiou dans l'environnement, eh bien, le risque est important. Donc, pour faire simple, c'est quelque part, avec les données climatiques et des observations de terrain, il existait les moyens de faire une analyse du risque en temps réel, du risque de la maladie. Donc ces outils-là existaient et étaient utilisés par le ministère de l'Agriculture pour faire ce qu'on appelle des avertissements. Ça, pendant plus de 30 ans, ça existait. Donc des spécialistes du ministère dans des régions données faisaient tourner ces modèles et puis disaient « Ah, attention, une fois par semaine, ils lançaient des messages en disant « Ben voilà, il y a le risque dans telle région. » Alors, l'idée... Et c'est le fruit du travail collectif un petit peu européen, était de dire, on a des outils maintenant, des données météo relativement fiables. Il suffit de mettre une station météo dans un champ, de collecter les données, tout simplement la température et l'hygrométrie. On sait le nom, le type de variété qu'on met dans un champ. Et... l'agriculteur doit aller regarder au moins une fois par semaine s'il n'y a pas de mildiou dans sa parcelle. Bref, on intègre tout ça et l'idée est en temps réel de savoir si le risque est là, s'il faut traiter et tout simplement pour arriver à l'information, est-ce qu'il faut traiter, est-ce qu'il ne faut pas traiter. Donc on détenait là un moyen vraiment de raisonner la lutte contre le mildiou, traiter avec le produit chimique ou ne pas traiter, ou d'attendre, parce que c'est vraiment à la limite inférieure, donc le seuil n'est pas encore atteint, donc on peut se permettre de ne pas traiter. Donc depuis une quinzaine d'années, on essaye de promouvoir ce type de pratique pour faire changer l'agriculteur et avec des éléments objectifs de dire on peut attendre plutôt que de traiter. On ne se voile pas la face, il y a eu des périodes il y a 20 ans plus tôt où on traitait tous les lundis matins. Donc c'est ce qu'on veut maintenant essayer d'infléchir les tendances. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et dans ce qui est c'est très difficile de faire changer les pratiques agricoles. C'est vrai que j'arrive là à la fin de ma présentation et je pense que ça sera mieux après qu'on échange. Pour vous dire que à ce jour, on n'est pas plus avancé. Enfin, c'est caricatural, mais pour vous dire que ce micro-organisme, il est toujours aussi puissant qu'il a été introduit dans les siècles passés. Juste, je reprends ça, pas pour vous dire. Vous voyez la densité. Voilà un article pour les scientifiques. C'est une très grande référence que de pouvoir publier dans une revue anglaise qui s'appelle Nature, Nature. Hein, si on a publié là-dedans, on va avoir beaucoup d'avancement. Je caricature, mais à peine. Mais c'est une très grande référence pour publier dans ces. Donc voilà une équipe mondiale qui a donc travaillé sur le génome du mildiou. Donc, si vous regardez les dates, cet article-là est sorti le 17 septembre 2009. Donc, vous entendez parler, conséquences, le génome humain. J'ai pas parlé de tout ce qui est biotechnologie et outils, puisqu'on est capable maintenant de travailler au niveau de la molécule. Tous ces outils mis pour la connaissance du mildiou. Donc, le génome du mildiou a été complètement séquencé. Vous voyez les efforts déployés. Je ne sais pas si vous imaginez, là, il y a au moins une trentaine de participants, d'équipes. Donc, je ne vous dis pas les moyens qui sont mis pour ce parasite sur la planète. C'est de la recherche fondamentale. J'ose espérer que d'ici 10 ans, de tout ce travail-là, on aura peut-être fait un petit progrès. On aura fait un progrès. Mais tout ça pour vous dire que ben, on en est toujours, on tourne en rond. Donc il y a bien un moment où il faut essayer d'avancer, de prendre des données qui sont un petit peu exploitables. Donc c'est ce que j'essaye de faire, de mobiliser. Et ça, je voudrais pas vous laisser partir avec l'idée que ça ne marche pas. En fait, il faut savoir que cette énergie que beaucoup de partenaires français ont mis sur ce dossier-là, les Européens. Ce modèle-là de raisonnement de la lutte du milieu sur la pomme de terre, et avec ces outils-là, c'est-à-dire d'analyse de risque en temps réel grâce aux données météo, est un des modèles les plus avancés et les plus utilisés par des agriculteurs. Donc, dans tous les bassins intensifs de production de pommes de terre, que ce soit dans le nord de la France ou en Bretagne, eh bien, c'est une chose qui avance. Donc, j'aurais aimé, l'idée était de vous présenter un toute petite interview d'un agriculteur. En fait, ils ont tout ça sur leur ordinateur. Chaque jour, ils ouvrent leur ordinateur, ils se connectent sur le modèle qui est lui-même connecté à la station météo. Ils ont rentré les données, leur date de plantation, leur variété, etc. Et en temps réel, eh bien, le modèle leur dit, eh bien, en fonction des données climatiques, des jours passés, des prévisions, parce qu'on arrive à intégrer maintenant les trois jours de prévision, eh bien, vous pouvez, en fonction de ce que vous avez déjà mis, vous pouvez repousser le prochain traitement à telle date, et ainsi de suite. Ils peuvent même recevoir leur message d'alerte sur leur portable. Donc, il y a du progrès de fait, mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et bon, voilà. C'est vrai que je pensais il y a 15 ans que la tâche me semblait si évidente, et sans doute ça vous semble aussi si évident et que ça devrait être fait par tout le monde, par chaque agriculteur. Et ben, c'est pas encore comme ça, mais voilà, c'est du militantisme au quotidien, et quelquefois je peux vous dire que je passe pour l'emmerdeuse de service chaque printemps, parce que oh là là, je suis enregistrée, mais je remets le sujet chaque année, et c'est pas facile, parce que tant que les réglementations, tant qu'on ne forcera pas, ben c'est comme chacun de nous, hein, si on ne nous force pas, s'il n'y a pas le bâton qui est derrière, si on n'a pas les radars sur la route, et je le vois bien encore aujourd'hui, s'il n'y a pas les radars sur la route, ben j'ai fait des excès de vitesse, oui. Bon, voilà, on est tous, la nature humaine est ainsi faite. Voilà, bon, voilà. Alors, j'ai pas fini. Dans le détail, et il est ô combien intéressant de l'hybridation, c'est quelque chose qui est passionnant de faire des nouveaux hybrides, donc vous allez en avoir un petit aperçu dans le film là. Et puis réfléchissez à tout ce que vous pouvez tout ce qui n'aurait pas été assez clair dans ce que je vous ai raconté, et si vous voulez.
Quelle est la variété qui ne prend pas le mildiou, si vous avez dit que c'était... Comment elle s'appelle?
Alors, celle-là particulièrement... Cette variété-là, elle s'appelle Sarpomyra, mais je pense que vous aurez du mal à la trouver. Les jardiniers, enfin là où vous... non, les jardineries, je voulais dire. Vous pouvez trouver, il y a des variétés qui sont un peu moins sensibles. Normalement, là où vous vous fournissez, la personne qui vous vend doit être capable de vous dire si la variété est plus ou moins sensible. Ça fait partie des informations qui doivent être fournies au moment de l'achat de enfin, je sais pas comment vous procédez, mais dans des jardineries, normalement, le fournisseur doit être capable de vous dire si la variété est plus ou moins sensible. Donc l'idéal, le problème avec cette variété-là, c'est qu'elle a besoin d'au moins 4 mois pour être produite. Et là, c'est ce qu'on appelle un cycle long. Et ça illustre bien toute la difficulté de la sélection, c'est qu'il faut trouver le compromis. Vous n'avez pas, vous aimez bien, déjà, on aime bien avoir des variétés primaires, hein, pour celles qui font leur rendement en 80-90 jours. Et donc, il se trouve, là, je vous ai parlé d'analyse génétique, il y a vraisemblablement une liaison entre ce qu'on appelle la tardivité et la résistance au mildiou. Il se trouve que dans l'ensemble des variétés ou des espèces qu'on a trouvées un peu moins sensibles, eh bien, elles sont toutes la même caractéristique d'avoir besoin d'un temps très très long. Donc l'idée, et on a réussi à trouver des variétés parce que c'est la longueur du cycle, mais c'est si vous voulez avoir une variété à chair ferme ou une variété plutôt pour les potages, c'est ou alors une variété pour faire des chips ou pour faire des frites. Disons que la sélection, c'est très compliqué parce que c'est un ensemble de caractères qu'on essaye d'optimiser. Mais normalement, votre fournisseur, il doit être capable, il a, ou s'il n'a pas les informations, eh bien vous pouvez lui demander qu'il aille les chercher auprès du fournisseur ou du sélectionneur. Je pourrais vous en citer comme ça. Il y a une variété qui s'appelle Juliette chez nous, qui est particulièrement bien. Amandine n'est pas... Alors après, il faut jouer avec la précocité dans votre environnement que vous pouvez peut-être bien connaître. Eh bien, et les productions primeurs en France, eh bien, c'est ça. On essaye de produire avant que le mildiou n'arrive et ne sévisse. Hein. Ça s'appelle l'évitement, en fait. C'est chacun, on peut décrypter, disons, certains types de procédés avec ces notions-là. On arrive à produire dans 100 mildiou, ben voilà, c'est de l'évitement, en fait. Hein? Oui.
Est-ce que vous avez une idée d'il y a plus, enfin, 1000 ans ou 2000 ans en Amérique du Sud, les rendements qu'ils pouvaient avoir ou les rendements qu'ils ont encore à l'heure actuelle avec des pommes de terre originelles, je dirais.
Oui, bien évidemment, il doit y avoir un facteur de 1 à 5, les rendements. Des pommes de terre natives sont moindres. On est là. Alors déjà, il y a une notion. Beaucoup des espèces en Amérique latine sont des diploïdes, et donc il y a un caractère lié là. La tétraploïdie a fait que elles sont plus productives. Mais bien évidemment, il y a tout un ensemble qu'on refuse de regarder parce qu'on est dans la dynamique de productivité, évidemment. Quand je vous disais que dans l'encyclopédie qui datait de 1905, ce que je relisais était « il suffit de mettre un peu moins d'azote sur le feuillage » parce que j'ai pas évoqué là, mais si on fait un feuillage très très poussant, il est d'autant plus sensible. Il y a des tas d'aspects qui n'ont pas été fouillés. Sur l'expression de quelque chose de moins sensible, avec en poussant, en mettant moins d'engrais sur votre culture de pommes de terre, vous la rendez moins sensible à niveau de sensibilité identique. Eh bien, si dans un coin vous mettez beaucoup d'azote et dans une production, on va dire, raisonnée aussi au niveau des fertilisants, eh bien, vous diminuez aussi le risque potentiel de la maladie. Effectivement, on n'est pas encore à fouiller. Parce que c'est une dynamique qui prendra aussi du temps, puisque l'agriculteur, enfin les actualités d'aujourd'hui aussi nous amènent à ça. C'est du rendement, ben voilà, il faut du rendement. On est payé, l'agriculteur est payé au tonnage. On est encore inverser la tendance du quantitatif plutôt que du qualitatif va prendre encore du temps. Mais bon, malheureusement.
À l'heure actuelle, quelle est la moyenne par pied en France que l'on
de rendement?
De rendement.
Là, ça dépend de. C'est pas une réponse de.
Non,
de
c'était Normand, par rapport à moi qui suis jardinier, voir si je suis loin du
si
compte.
Si vous êtes bon, mais en tant que jardinier, j'ai tendance à être très respectueuse pour les jardiniers. Vous faites sûrement très bien. Ça dépend de la variété aussi, mais si vous avez sous couvert, sous la responsabilité d'Alain, si vous avez entre 700 et 1 kilo au pied, selon la variété. Mais ça inclut tellement de choses. Ce que je voulais évoquer, je ne sais pas, vous parliez du bio. Le milieu, si vous venez en production bio, c'est terrible. C'est terrible. C'est la maladie qui est la plus difficile à gérer en production bio.
On sait en quelle année qu'on a eu 80% de notre production.
Bon, les deux années. De 2007-2008, ça a été en Bretagne. Hein. 2007-2008, en production bio, mais c'était terrible. Et il faut le dire, que badigeonner une fois par semaine avec de la bouillie bordelaise, c'est aussi pas bien, quoi. C'est charger l'environnement avec du cuivre, c'est pas bien. Mais il n'y a pas d'autre solution, quoi. C'est vraiment terrible.
Non, mais là, les mecs, ils faisaient leur boulot, hein. C'est-à-dire qu'ils passaient tous les jours dans les parcelles pour enlever les...
Pour enlever les foyers, voilà. Mais oui.
Mais au ghetto, ils ont perdu 80% de leur récolte.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il faut penser de mettre les tomates qui ont vécu sur le compost? Les tomates, les fans de pommes de terre.
Alors, donc, effectivement.
Le compost et le mildiou.
Voilà. Oui, bonne question. Alors, vous pouvez mettre les tomates, pas de problème. Parce qu'effectivement, au bout de. En cours de décomposition, ce qui reste. Mais oui et non, vous avez tout à fait raison, parce que je vois très bien sur un tas de compost au début du printemps les petites plantules de tomates se développer. Effectivement, ça c'est vous donnez là à la petite spore qui se balade, vous lui donnez de la chair ferme pour s'installer et faire du relais. Effectivement, je dirais enlever les graines de vos tomates avant de les mettre sur le compost. On rêve, mais c'est presque ça. Quant aux pommes de terre, si elles sont vraiment décomposées, si au bout de votre compost, votre patate, elle est complètement pourrie, c'est pas un problème. Mais encore une fois, cette espèce, elle est tellement formidable que vous faites une épluchure un peu grosse au niveau des yeux. Vous laissez traîner votre pelure. Si vous êtes au printemps, ben vous savez bien, sans doute, que vous avez un germe qui pousse. Donc c'est vrai. Oui, vous avez tout à fait raison. Si vous laissez, non, mais tel que je vous entends là, vous êtes quelqu'un de... Vous observez tout, donc il vous suffit de regarder sur votre tas de compost et puis d'enlever tout de suite, dès que vous voyez se développer votre germe de pommes de terre ou de tomates, de les enlever. Vous arrachez, point barre, et puis c'est fini. Là, il n'y a plus de risque. Vous comprenez?
Je pense que... Une question dans toutes vos recherches, là. Est-ce que... Je ne pense pas que ça puisse pousser sur les substrats, par exemple, la pomme de terre, mais est-ce qu'il y a eu des essais de faire en atmosphère contrôlée, sous serre?
Eh bien, oui, dès lors... De ce que je vous ai dit, s'il y a la température, s'il y a l'hygrométrie, s'il y a la plante et s'il y a la spore, ça fait un mélange d'étonnant. Si vous enlevez l'humidité, si vous en serre, vous nébulisez pas, vous mettez pas de l'humidité à 100%, c'est parfait. Vous n'avez plus d'humidité, votre mildiou il va pas pousser.
Oui, mais je veux dire, la pomme de terre elle pousserait pas sur un substrat.
Oh, elle pousse sur n'importe quoi. Oui, elle pourrait, mais vous n'imaginez pas faire pousser la pomme de terre hormis dans votre jardin et sous votre petite...
Je pense que c'est une erreur, parce que moi j'ai vu en Biélorussie des serres immenses, parce qu'ils n'ont pas de terre pour cultiver, de tous les légumes. Je n'ai pas vu de pommes de terre.
Oui.
Et en Islande, c'est pareil, en atmosière contrôlée.
Oui.
Et
mais vous,
je pense
vous
que
imaginez...
c'est une erreur de ne pas le faire.
Oui, mais vous imaginez le coût du kilo de pommes de terre dans ces conditions-là, ici. Mais
eux, ils le font bien. Hein.
Oui.
Ils sont également les premiers producteurs de bananes. Et pourtant, oui, en Islande, ça paraît étonnant.
Non, oui, non, mais on comprend bien dans ces latitudes. Effectivement, ah, oui, mais... ils font un microclimat. Mais vous imaginez à combien on devrait acheter le kilo de pommes de terre s'il fallait produire comme ça.
Mais ils le font parce qu'ils n'ont rien d'autre pour manger.
Voilà, bien sûr, bien sûr. Mais dans nos latitudes... mais vous avez raison. Donc on est là dans une situation d'évitement, bien sûr. On n'a plus l'humidité, donc tout va bien. C'est vrai que on a, genre, si on veut faire des études et pulvériser du mildiou en serre, eh ben on a un mal fou à ce qui se développe, hormis si on pulse pour qu'il y ait 100% d'humidité. Donc voilà, évidemment, c'est vrai que c'est la pomme de terre, c'est à cheval, c'est un légume, c'est une grande culture dans les besoins de production actuellement, en plein champ. Enfin, c'est vrai qu'on ne peut pas l'imaginer. Par contre, pour avoir la pomme de terre très tôt, vous pouvez la mettre dans une serre, effectivement.
Vous avez parlé que le mildiou arrivait à se transformer pour pouvoir accepter pour pouvoir contourner. Alors, on utilise du cuivre depuis des années et le mildiou doit ne plus pouvoir.
Non, parce que le mode d'action de la bouillie bordelaise fait appel. Quand je vous ai dit ça, je vous ai dit, on sait quel type on va faire. On sait quel type de produit par leur mode d'action on peut utiliser et quels sont les autres qu'on ne peut pas utiliser. En fait, le cuivre, c'est tout, dès lors que vous utilisez un produit qui est un produit de contact, là, vous faites, avec la bouillie bordelaise, vous faites une protection de façon à mettre une barrière entre le mildiou et la pomme de terre. Donc, le cuivre, il a une vertu biocide pour la spore, et elle ne peut pas rentrer. Là où il y a ce qu'on a appelé contournement, c'est des produits qu'on applique quand le mildiou est déjà dans la plante, et quand le produit rentre aussi un peu dans la plante, à des modes d'action qui font, selon le mode d'action de la molécule, donc ces produits, ces molécules, on les a très vite identifiées. On sait, et puis, surtout, ce qui n'existe pas, ou très très peu, c'est des produits que l'on peut utiliser quand il y a déjà du mildiou. En fait, la majorité des produits, c'est des produits avant, c'est pour... faire la barrière pour que... C'est tout ce qu'on a actuellement, en fait. Alors, il y a des produits, et c'est vrai que là, les produits phyto, et je ne crache pas non plus dans la soupe, parce qu'on a besoin d'un peu de produits phyto, mais raisonnons l'utilisation. Donc, certains produits sont maintenant de plus en plus, je veux dire, sophistiqués. D'abord, ils s'utilisent à des doses un peu moindres, ce qui fait que la charge, c'est vraiment des... ils essayent d'atteindre des doses plus faibles et c'est des modes d'action toujours de contact et en préventif. Jamais, il n'y a quasiment aucun produit en curatif. La meilleure solution, c'est d'enlever votre source de la tache, quoi. Et de brûler. Ben oui, mais quand vous avez déjà des tubercules, de brûler.
Autrement dit, quand on a du mildiou sur des plantes pommes de terre, il est inutile de traiter au sulfate de cuivre.
Exactement, exactement. Sauf si vous avez encore des endroits qui sont verts et que vous voulez protéger. Si vous mettez la bouillie bordelaise et que vous laissez les foyers de mildiou, c'est ridicule. Donc, vous pouvez continuer à protéger toutes les parties vertes qui ne sont pas encore touchées dès lors que vous enlevez les foyers touchés. Oui, allez-y.
Quand le mildiou a atteint tout le feuillage vert et qu'on coupe à la base et on laisse les pommes de terre dans la...
C'est bien. Très bien, oui. Et surtout que vous ne laissez pas les fans par-dessus, au-dessus de la butte. Parce que là, c'est parfait. Dès qu'il y a une pluie, ça percole dans le sol et ça vient sur les tubercules.
Alors, je voudrais savoir si vous avez trouvé des synergies de traitement avec d'autres plantes. Ou de prévention. Peut-être pas de traitement, mais de prévention.
Alors, il y a beaucoup d'approches dans ce sens-là, ce qui s'appelle essayer de stimuler les défenses naturelles de la plante. Il y a des toutes petites lueurs d'intérêt, mais c'est tellement de l'ypsilon dans le pouvoir infectieux, comparé au pouvoir infectieux de ce parasite, que sincèrement, pour ce type de parasite, à mon humble avis, on n'aura pas beaucoup de chances de trouver des choses intéressantes. L'expérience, là, j'ai été amenée, pas trop là récemment, mais avec la filière bio. Et vraiment, là, il y a des points où je n'y crois vraiment pas du tout. C'est même honteux d'imaginer ça. C'est prendre, ça se pratique, hein, je ne dis pas sur d'autres modèles, mais d'aller prendre du feuillage touché, de faire une suspension, d'aller pulvériser après avec ça, avec le concept de vaccination, etc. Sur le milieu, c'est complètement absurde et fou. Hein,
je pensais à l'œillet d'Inde. Par exemple, à l'œillet d'Inde qu'on conseille régulièrement de mettre, notamment au pied des tomates.
Alors, si vous me branchez sur l'œillet d'Inde, ça va être pour le parasite du sol, en fait. L'œillet d'Inde, il a des vertus nématicides pour le sol. Et ce sont ces racines qui dégagent des matières volatiles. C'est surtout cette vertu-là, mais c'est intéressant, mais pour des parasites du sol. Encore une fois, je décrypte cette capacité infectieuse de cet agent. Il est aérien, rien ne l'arrête. Et j'utilise, sur ce modèle-là, avec ce parasite-là, au niveau de la Bretagne. J'ai réussi à mobiliser depuis une dizaine d'années, à mobiliser des gens traditionnellement, historiquement, n'ont pas envie de se parler, entre les gens qui font de la semence, ceux qui font de la pomme de terre primaire. Je parle au niveau de la Bretagne. Hein. Mais quand je pousse le retranchement jusqu'au bout, la Bretagne, c'est une presqu'île. Si on se met un petit peu en hauteur, si on est une spore de mildiou, on trouve de la pomme de terre à partir du mois de février-mars. Et le mildiou, il en trouve jusqu'à fin juillet. Il va trouver des patates sur la presqu'île bretonne. Et ne pas avoir une attitude, une lutte fédérée, interfilière à ce niveau-là, était complètement absurde. C'est un petit peu comme le producteur conventionnel qui produit en conventionnel à côté de celui du bio. Par exemple, aux Pays-Bas, des situations comme ça exigent que déjà le bio, il n'a pas le droit à plus de 10% de son feuillage touché, sinon il doit tout détruire. Hein? Parce que là, par exemple, c'est faire une pression déloyale par rapport au conventionnel, c'est laisser une pression de ce parasite-là aérien. Donc il y a des règles, je dirais, de bienséance. Quand une fois on a compris que ce parasite, il ne connaît pas les frontières, il ne sait pas si une patate est bio ou est conventionnelle. Enfin, il le découvre avec la bouillie bordelaise ou avec d'autres. Mais je veux dire, il est là pour investir toute cellule de tomate, toute pomme de terre. Or, en Bretagne, il n'y a pas trop de tomates en plein air. Dans le sud, après, il fait trop chaud, donc ça sèche. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où il attaque tout ce qu'il trouve. Ceci dit, c'est un parasite vachement intéressant, vachement. Donc il va continuer, j'espère, que les générations futures. Voilà. Oui, devant, vous vouliez. Enfin, je ne sais pas, le maître de séance fait tourner le micro.
J'avais plusieurs choses à vous demander. Est-ce qu'il y a déjà un apprenti sorcier qui a essayé de faire des OGM ?
Alors, si vous ne posiez pas la question, je vous aurais fait des commentaires là-dessus. Alors, oui, mais il se casse la... le mildiou est bien plus intelligent. Donc, sur ce modèle-là, oui, il y a eu des travaux de fait. J'en ai moi-même expérimenté, mais rien n'y fera, même des transformations génétiques. Alors, juste pour la petite histoire, les transformations génétiques visant ce parasite-là, c'est tout simplement mimer ce qu'on peut déjà faire en hybridation conventionnelle. C'est-à-dire, ils ont pris... Alors, on s'entend bien de prendre le gène des gènes de la variété que vous aviez, là, donc notamment Sarpomyra. On sait identifier, puisque le génome est complètement séquencé, on sait quelle est la partie du génome qui est potentiellement impliquée dans le mécanisme de résistance, on a transformé donc d'autres pommes de terre. Donc on a fait ni plus ni moins, je reprends vos termes, l'apprenti sorcier n'a rien fait de mieux que ce qu'on sait déjà faire en conventionnel. Et de toute façon, il n'y a rien. Un apprenti sorcier se fait fort de résoudre les problèmes de milieu par la transformation génétique, c'est impossible. C'est impossible. On ne sait, enfin, même ça ne viendra pas à bout du parasite, parce qu'on ne, il y a toute une zone d'ombre. Ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi la spore, elle sait reconnaître une cellule d'une variété sensible. Il y a encore tout cet aspect-là. En fait, on a avancé dans les secteurs où on peut trouver des réponses, mais il reste toute une zone d'ombre. On ne sait pas ce qui fait la reconnaissance. On ne sait pas pourquoi la spore, quels sont ces mécanismes qui font que la spore arrivant sur un feuillage, eh bien, le feuillage reconnaît ou ne reconnaît pas, enfin, l'un ou l'autre. Ah, mais il y a sûrement plein de choses, mais ces mécanismes-là...
Je disais que ça pouvait peut-être être une enzyme qui existerait ou qui n'existerait pas, qui pourrait justifier qu'elle peut rentrer ou elle ne peut pas rentrer.
Mais certainement, il y a sûrement des choses comme ça. Mais cette partie-là, je dis, c'est vrai que... Enfin, je vais faire fi de tous ces milliers d'euros et de dollars qui sont mis. Disons que les scientifiques, ils avancent dans des domaines où ils peuvent faire. Toute la partie, la partie séquençage, c'est bon, comme on prend tout de médecine humaine, comme tout ça, les outils sont là, eh bien, on le fait. Mais on est très très content de connaître les comparaisons avec les autres phytophthora, etc. Enfin, la publi en elle-même, eh ben, elle est merveilleuse. Mais il reste tout cette interface là qu'on ne connaît pas, elle n'est pas décryptée. Alors c'est sûr que il faut savoir que les gros agrochimistes qui travaillent, disons que le mildiou de la vigne et le mildiou de la pomme de terre, c'est deux gros modèles très importants pour des sociétés comme Bayer. Monsanto ne travaille pas trop ce domaine-là, mais Bayer, Syngenta, c'est vrai que leurs scientifiques, leurs chercheurs fouillent ou en comparaison avec des modes d'action de certaines autres molécules, mais il y a encore des choses à connaître, hein, de toute évidence. Mais c'est vrai que la transformation génétique n'apportera pas mieux que ce qu'on sait déjà faire en conventionnel, parce que on sait faire ça, c'est-à-dire croiser ces variétés là on en a plein, hein, ça on sait le faire. Je pense que il faut être aussi habile que le mildiou, donc c'est l'ensemble de tous ces moyens qui permet une année donnée, eh bien, de faire une production raisonnée et qui durera dans le temps et dans les années à venir et pour les générations à venir.
Vous avez parlé de bio, de culture bio de la pomme de terre.
Oui.
J'aimerais savoir qu'est-ce qui est permis dans le cahier des charges de la culture bio, parce que est-ce qu'il y a uniquement le sulfate de cuivre ou s'il y a autre chose ?
Il y a que ça pour l'instant.
Non, mais c'est rassurant s'il y a que ça. Et si c'est,
oui. Ben, rassurant, je dirais pour qui a envie de produire, on va dire, hormis de la production pour soi, pour l'agriculteur qui a envie de produire de la pomme de terre bio, ben c'est un sacré défi. Il a, en fonction de l'endroit où il travaille, hein, si la pression est très très forte, je peux vous dire que les agriculteurs qui produisent en Bretagne en bio, ben ils ont du mérite. Hein, parce qu'il n'y a pas d'autres, ça fait, il y a de vastes projets pour essayer de remplacer le sulfate de cuivre, mais rien, ça fait 10 ans qu'on dit que le sulfate va être banni, parce que faut savoir que en production bio, ben le cahier des charges, il dit il faut pas plus de tant de kilos de sulfate. Hein. Là, par contre,
j'ai cru comprendre que vous faisiez quand même appel à d'autres substances de traitement. Vous les avez pas nommées ? Non, pas en bio, mais en Bretagne. Là. Dans votre agriculture raisonnée de la pomme de terre.
Ah ben, les produits, disons, qui sont dûment.
Vous avez dit des produits.
Oui.
Donc,
oui.
Il y a d'autres. Il y a des produits de synthèse. Il y a des...
Oui, bien sûr.
Ah bon, d'accord. Ah, ça existe, oui. Donc.
Ça. J'ai mis. Ça existe très. Il y en a beaucoup, oui. C'est un secteur d'activité très important et il faut être honnête, on ne serait pas en Europe, on ne saurait pas produire la pomme de terre sans les produits de synthèse. Hein. Il faut être réaliste. Hein. Après, il y a les quantités et il y a si la pression climatique est très forte, ben c'est vrai qu'il faut traiter. Il faut traiter.
Oui, moi je comprends bien que les agriculteurs sont souvent des mauvais élèves, mais le mildiou est quand même une mine d'or pour les agrochimistes.
Sûrement, il y a un peu tout ça, et puis de la pression économique pour tout le monde. Enfin, c'est les mauvais. Il faut pas le prendre comme c'est comme ça. Ils n'ont pas d'autre choix. Mais après, c'est vrai que moi, je suis la bête noire aussi de venir perturber. Enfin, quand on vient avec un projet comme ça, on perturbe tout le système. Et c'est vrai, en tant que citoyenne, ce qui me gêne, c'est de ne pas voir davantage. Ils le font, mais ils le font du bout des lèvres, effectivement, les agrochimistes, de participer à. Ils le font du bout des lèvres. Et je suis d'accord avec vous. Ils le font du bout des lèvres. Donc, on est d'accord. On est d'accord.
Dans un meilleur discours, je crois que les paysans, à côté, ben, ils se comporteraient peut-être autrement.
C'est pas une histoire de discours. C'est une histoire de couteau sous la gorge, économique.
Ben, il faut peut-être mettre le couteau sur la gorge aux agrochimistes, certainement.
Oui, non. Oui, non, mais il faut. Tout ça, c'est dans l'engagement politique. Hein. Voilà. Nous sommes dans une démocratie, mais c'est dans c'est un engagement politique. Et je ne suis pas. Disons que je suis une forte militante quand je sais que je peux agir. Puis après, je baisse les bras. Quand je vois que je peux pas faire plus, mais bon, je les chatouille, mais bon, on peut pas. Hein?
Et qu'est-ce que vous pensez du purin de prêle?
Bon, à ma connaissance, pour le mildiou, rien, aucun effet. Mais c'est un, je sais que c'est un sujet sensible et enfin.
On en entend beaucoup parler, donc je vous, peut-être avez-vous une opinion.
Certains d'entre vous ont plus d'éléments là-dessus. Je me disperse beaucoup dans mes fonctions. Ça sera pour plus tard. Je suis désolée, je ne sais pas vous répondre. Oui, oui.
Le monsieur a répondu à la question que je voulais poser. On sait très bien que tant qu'il y aura du pétrole, il n'y aura pas d'autres moteurs. Donc pour le milieu, c'est peut-être un peu la même chose.
Oui, allez-y, dans votre comparaison, tant qu'il y aura des produits.
Vous parliez de moyens tout à l'heure, mais tant qu'il y aura Bayer et tous ces agrochimistes, les moyens, ils sont limités quand même.
Oui. Mais bon, je ne peux. C'est même pas très très sincèrement. C'est pas de la langue de bois en ce qui me concerne. Hein, je suis assez crue en général. Sincèrement, on a à revoir le modèle de productivité agricole, ça c'est incontestable, et à travailler sur la qualité plutôt que la quantité, mais ça va prendre des décennies. Hein. Mais on ne pourrait pas, dans nos conditions climatiques, produire de la pomme de terre sans avoir recours aux produits chimiques. Hein. Dans les données actuelles. Et ce que je prône, c'est, et ce que j'aimerais bien avoir réussi à vous convaincre, c'est de vous dire que je sais que le terme de production raisonnée, certains le prennent en disant c'est encore de la com. Sincèrement, au fond de moi-même, j'estime que je suis une militante d'une production raisonnée. Pour trouver le compromis le meilleur pour l'environnement, et ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas de la com, c'est pas du bluff. Dans ce modèle-là, c'est vraiment chercher à optimiser, parce que c'est une juxtaposition d'éléments qui vont dans le même sens, et c'est réduire les produits phyto. Alors, on va dire que l'engagement du Grenelle 2, l'éco-phyto 2018, il dit bien qu'il va falloir réduire. Donc, je peux vous dire que l'orientation prise quand même depuis 3 ans, c'est de se dire, je vais vous expliquer que ce modèle, cet outil qui, on va le résumer, pour parler, vous allez entendre parler, ça s'appelle un outil d'aide à la décision. Depuis 10 ans, et Alain peut témoigner, c'est d'ailleurs l'idée et l'instigation d'Alain Chantal de nous avoir un certain nombre de professionnels orientés vers cette voie-là. Et cet outil-là, il a en 10 ans, il a beaucoup évolué avec tout un groupe de partenaires. Et c'est tout de même intéressant de voir depuis 2 ans, parce qu'en fait, l'outil, maintenant, il permet sur l'ordinateur, vous, en tant qu'agriculteur, vous devez être capable maintenant de produire le cahier de tous les traitements que vous avez faits. Or, cet outil-là, maintenant, a en plus cette vertu-là, c'est-à-dire que vous pouvez enregistrer sur votre ordinateur le produit que vous avez mis, les quantités, et de dire... L'outil vous permet de dire, eh bien, j'ai appliqué le produit parce que le dispositif, les conditions climatiques faisaient que je devais l'appliquer à ce moment-là. Et depuis, malgré tout, les choses bougent. Depuis 2 ans, avec les 2 Grenelles successifs, eh bien, la majorité commence à se dire, bon, ben, on va y aller. On va y aller et puis ça va être... Mais c'est des petits progrès qui se gagnent petit à petit. Hein. Et comme ça, moi aussi, j'espère qu'on va réduire de façon conséquente les traitements anti-mildiou. Hein. Tout comme... Enfin, ça fait partie de mon utopie, et j'essaye chaque campagne sachant que de notre côté, enfin, je parle beaucoup au-delà de mes compétences. Nous, notre compétence chez Germicopa, c'est de fournir une variété qui sera moins sensible, en fait, hein, c'est notre mission. Et on en sort, mais je sais vous dire, il y a des endroits où on pourrait être beaucoup plus sévère. Chaque année, pour inscrire une variété qui est issue de notre sélection ou d'autres sélectionneurs, elle doit passer un examen pour être enregistrée et reconnue comme une variété. Et cet examen de passage, il est fait par le ministère de l'Agriculture, via l'INRA. Et s'il décidait de dire, eh bien, à partir de maintenant, on ne va inscrire que les variétés qui sont au-delà d'un certain niveau de sensibilité, ou en deçà, ben déjà, ça serait avancé. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'une variété encore sensible, ben, elle peut être inscrite. Donc il y a c'est vrai qu'il y a des éléments où on pourrait resserrer les taux. Si l'État disait, ben, enfin il l'a déjà dit, mais on va voir comment ça va être appliqué, réduction de 50% en 2018, rendez-vous 2018, on verra bien. Bon, il y a des petites choses qui se font et des prises de conscience. Mais c'est vrai que les progrès sont difficiles. Les conseillers ne sont pas les payeurs non plus, en fait. Hein. J'ai aussi beau rôle de dire ça aux agriculteurs qui ont besoin d'avoir des pommes de terre sans mildiou, au bout du compte. Hein. C'est ça qui compte.
Oui, moi, je voudrais juste un témoignage et une question. Oui. Bon, je suis jardinier, je dirais, en bio. Hein.
Oui.
Ça fait plus de 25 ans que je cultive de la pomme de terre, mais j'ai jamais eu de mildiou.
Oui.
Ensuite, ma question, c'est comment
vous
produisez
ici.
Oui, oui, côté de Nevers. Oui. Ouais. Ma question, c'est la pomme de terre vient d'Amérique du Sud et comment faisaient les Amérindiens pour se protéger du mildiou et faire cultiver la pomme de terre avec des moyens qui n'étaient pas chimiques.
Je ne sais pas trop répondre à votre question. Je ne sais pas. C'est vrai que là, il faudrait faire de l'archéologie sur le mildiou. Ce que je sais actuellement, c'est que la niche écologique du mildiou, alors il y a des débats d'école en fait, c'est le Pérou, mais c'est aussi le Mexique. C'est vrai que au Pérou, et notamment au Mexique, ben, il y a des zones où il y a ce microclimat qui fait que très sincèrement, vous me posez, je ne sais pas répondre à votre question. Est-ce que le mildiou était prépondérant à l'époque? Ben, j'imagine que non, parce que sans quoi il y avait une biodiversité encore plus importante que celle que l'on a maintenant. C'est peut-être ça. Et au fil du temps, et rien n'empêche de penser que vous témoignez que vous n'avez vous jamais eu de mildiou, vous ne l'avez pas eu parce que vous êtes, si vous enregistrez vos précipitations, votre hygrométrie, vous êtes, il pleut pas trop. Déjà, il y a les conditions climatiques, il y a l'évitement, il y a que votre environnement est sain. Voilà. Oui. Et vous devez changer de coin. Voilà. Voilà. Vous regardez sans doute pas votre rendement à la loupe. Vous mettez pas trop d'engrais azotés. Voilà, bon ben, je peux décrypter votre succès, hein. Et puis après, on peut regarder les variétés que vous employez. Il y en a certaines qui en bio notamment, qui sont un peu moins sensibles. Mais vous conjuguez effectivement tout ce qu'il faudrait réussir à faire. Alors, aller parler de moins d'engrais azotés sur l'ensemble de la production française, c'est pas un discours qui passe non plus. Voilà. Et on a tous raison, hein. Et puis, l'évitement, et puis peut-être vous les choyez, vous les pré-germez, et puis vous les plantez tôt, et puis il n'y a pas de relais de mildiou autour de chez vous. Voilà, l'explication, elle est là.
Est-ce qu'il y a une cultive à 4000 mètres d'altitude?
Pas 4000 mètres là en bio. Au Pérou ? Oui. Oui, donc là, après, la température était basse. Donc, inactivant. En fait, le mildiou, il est bien entre 12, 14 degrés jusqu'à à 20, 25 degrés, il crame. Il est plus bien. Il reste, s'il y a de l'humidité, eh ben, il va rester en sourdine sous les feuilles.
Non. Moi, simplement, je voulais poser une question au jardinier. Est-ce qu'il a du mildiou sur ses tomates?
J'en ai eu l'année dernière, sinon j'en avais pas eu non plus.
Ouais. Bon, et les tomates, dans le cycle, étaient plus tardifs, étaient délocalisées par rapport à vos pommes de terre. Vous aviez les deux
ouais.
en même temps?
Non. J'ai plutôt les pommes de terre au début et voilà. Les tomates assez tardivement.
Voilà. Et puis ouais. Vous couvrez peut-être vos pommes de terre pour avoir des primeurs ou des choses comme ça? Non, même pas.
Non, pas spécialement.
Non, vous êtes dans un îlot et puis peut-être il suffit que vous ayez une forêt autour de vous.
Oui, il n'y a pas de jardin aux alentours.
Il n'y a pas de jardin, voilà. Par contre, il est vite... Le mildiou est arrêté par des barrières végétales, d'hôtes non sensibles. Hein. Là, ça ne passe pas. Il a son point faible, c'est la survie. Une spore qui ne trouve pas tout de suite une pomme de terre ou une tomate, au bout de 2 heures, elle meurt, en fait. Donc, c'est son point faible.
Oui, moi, je voudrais poser une question toute bête. Puisque vous dites que le mildiou se reproduit par l'humidité principalement, pourquoi cultive-t-on des pommes de terre, notamment en Bretagne? Notamment, hein?
Ben parce que tout comme vous, les Bretons, ils ont envie de manger de la pomme de terre. Non, pas en culture intensive. Enfin, le climat est tel que, ben, c'est vrai que c'est. En fait, le problème, c'est que le mildiou, il se sent bien là où la patate se sent bien aussi. Non, mais.
Oui, la question était posée de savoir comment faisaient les Sud-Américains autrefois, mais comment ils font aujourd'hui. Quelle est la situation actuelle en Amérique du Sud et...
Comment ils font? Ben ils font comme nous tous. Et ils ont recours à des produits chimiques. Et puis eux, ils ont de façon, ils exploitent de façon, enfin ils ont sous la main la biodiversité de façon plus facile, hein. Mais ils sont confrontés à la même situation qu'en Europe. Et cette thématique mildiou, je vous ai parlé que ça nous fédérait en Europe, mais la publication que je vous ai montrée là, il y a une fédération, ça s'appelle le GILB, ça s'appelle Global Late Blight Initiative. Ça veut dire que la problématique mildiou, elle est sur la planète une problématique. Alors, ben la réponse, c'est l'agriculteur, où qu'il soit, il connaît bien son climat, donc il va spontanément et de façon empirique chercher à produire en évitant le risque. Enfin, il le fait pas de façon aussi savante et aussi formalisée que je vous le dis là, mais il saura que s'il se dépêche à produire avant telle période, ben il va éviter la pression.
Je veux revenir. Oui. Je voulais juste dire que je connais. Je suis pas très forte en patates, sauf pour les manger, les cuisiner.
Bah, tant mieux. Je suis très.
Mais j'ai vu des patates en effet avec le mildiou déjà, des plants en tous les cas. Oui. Mais je veux revenir au problème de la Bretagne parce que ce que je me posais comme question, comme le monsieur, est-ce que c'est comme la poule et l'œuf? Est-ce que le mildiou s'est développé parce que en Bretagne il y a du vent et de la pluie, et qu'il y a des cultures intensives de pommes de terre?
Il y a des cultures, point bas, elles sont pas... La pomme de terre en Bretagne, elle représente à peine 10%, et c'est même moins que 5%. Je vous parle beaucoup de la Bretagne parce que j'y suis et parce que j'y travaille beaucoup. Mais si vous regardez l'emblavement en pommes de terre une année donnée, c'est moins que le maïs, c'est moins que que l'herbe, c'est moins que le colza. Disons qu'il y a c'est un climat océanique, hein, ce qui veut dire bien sûr de l'humidité, mais ça veut dire une température, une amplitude saisonnière assez faible. Donc toute la façade maritime, c'est un endroit effectivement idéal pour produire des pommes de terre primeur. Alors là, il y a eu de l'intensification, mais disons que c'est pas. On pourrait revenir sur cette intensification là, mais le problème sur la Bretagne, c'est que ça fait comme une presqu'île et qu'il y a de la pomme de terre disons qu'il y a de quoi coûter pour le mildiou. Du nord au sud, d'est en ouest, d'ouest en est, sur une période assez importante. Donc, ce concept d'évitement, eh bien, il est pas mis en œuvre, quoi. Tout le temps, le mildiou peut trouver, et il y a du vent, et on produit de la pomme de terre. Là, c'est d'autres raisons historiques. Le vent, il est bien aussi pour chasser les pucerons, donc c'est important. Donc, si on résout un problème, eh ben, on en a d'autres. Voilà. Et puis que la Bretagne, comme vous le voyez là, c'était une région aussi là où la pomme de terre s'est beaucoup développée.
Juste pour compléter un petit peu sur le climat. Certains semenciers de pommes de terre se sont localisés sur les bords de côte en Normandie, sous les embruns salés, oui. Parce qu'il y avait moins de pression maladie. Oui. Est-ce que le sel a un effet sur le mildiou ?
C'est pas les embruns salés, c'est le vent. C'est ce que j'explique là. C'est le vent. C'est des températures pas trop élevées, quoi. Ça reste autour du 18-20 degrés et ça vise surtout à limiter les pucerons, en fait. Hein, c'est pour ça. Alors, c'est vrai que la Bretagne, il y a, comme dans toute la façade maritime, en fait, optimise ses conditions climatiques aussi bien pour les primeurs que la production de semences, hein. Et la production de semences étant une production très à part, mais les exigences de la production de semences font que le cahier des charges interdit la proximité avec d'autres cultures. Mais c'est vrai que dans une région donnée, les deux peuvent cohabiter.
Oui. J'aurais voulu simplement revenir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure. Au bout de 3 ou 4 années, les oui. pommes de terre, si on gardait nos semences, nos semis, oui. Ça dégénérait et on n'avait quasiment plus rien. Et comment faisait... Enfin, moi, je me souviens, mon père qui a travaillé, comme beaucoup, dans les fermes, prenait la semence. Et puis, pendant des générations et des générations, il reprenait et ils avaient des rendements a priori corrects.
Oui, quand vous dites des générations et des générations, vous savez, il ne vous disait pas sans doute, ben tiens, il faut que je remette un petit peu du neuf dans. Il devait le faire de toute façon.
Il n'y avait pas de semencier, je veux dire, dans les années 50.
Quand
la pomme de terre est arrivée au XVIe siècle sur le vieux continent.
Disons que c'est progressivement, ça. Encore une fois, cette espèce-là est quand même, dans le concept de semence, la multiplication végétative fait que potentiellement, quand vous multipliez comme ça, vous multipliez, si vous avez un pépin, vous le multipliez en même temps que vous multipliez la semence. Donc c'est vrai que ce concept de semencier, en Europe, s'est spécialisé pour produire de la semence saine. Le risque parce que quand on parle de semences sur la pomme de terre, il faut savoir que vous savez bien que c'est pas une graine. Or, c'est le tubercule, c'est un organe chargé d'eau, qui est très vulnérable, pour transporter des maladies. Bon, d'abord, enfin, sur les aspects de conservation, etc. et sur les aspects de virus. Alors, Vous dites, vous avez souvenir, mais effectivement, et ça, c'est encore ça se fait encore maintenant, mais certaines variétés, dans un environnement donné, eh bien, vont être chargées en virus. Et si vous avez beaucoup de virus, et peut-être que votre père, il était capable aussi, quand il allait dans ses champs, d'enlever, parce qu'il devait avoir l'œil sur du feuillage. Une variété qui a du virus, ça se voit au feuillage. Donc, vraisemblablement, il allait dans les champs, puis il enlevait les pieds malades. Donc, c'est tous ces éléments. En fait, ce qui manque maintenant à l'agriculteur, c'est il y a toujours plus de surface, toujours moins de temps pour aller dans les champs. C'est ça, on va mourir. Tout est condamné à cause de ça. C'est le manque de temps. C'est les surfaces, effectivement, qui deviennent ingérables à la chair humaine. Ça, c'est vrai, hein. Donc votre père, ben, il a enlevé les pieds malades et il pouvait de cette façon-là conserver, mais c'est pas des maladies foudroyantes comme celle-là, c'est insidieux, vous ne le voyez pas.
Vous nous avez parlé de la pomme de terre. Jean a parlé plusieurs fois de la patate et dans plusieurs sens. Alors les fermiers que je fréquente parlent de la truffe.
Très bien, donc je... C'est vrai que c'est dans l'historique, truffolie, certains s'amusent à enregistrer tous les petits noms qu'avait le tubercule dans le temps. Truffe, c'est voilà. C'est local, hein. Oui, mais...
Oui, bonsoir. Je voudrais vous poser une question, enfin même plusieurs questions. Je voudrais revenir déjà sur un point technique. Vous avez évoqué le compost. Quand vous nous dites retirer les graines des tomates tout à l'heure sur le compost, un bon compost qui chauffe à 75-80 degrés, normalement il détruit la graine. Donc on n'évoque pas de compost, on évoquait du fumier tout à l'heure. Ça c'est le premier point. Ouais. Deuxième point que je voudrais vous poser, et j'ai beaucoup de mal avec ça, qu'est-ce que le concept d'agriculture raisonnée ? J'écoutais vos propos quand vous attaquez les bio avec le sulfate de cuivre. Attendez, ouais. Je finis mon propos. Ouais. C'est le même discours que nous vend la FNSEA, depuis des années, ainsi que les agrochimistes. Donc pour finir mon propos, je ne sais plus pour quel organisme vous travaillez, mais je voudrais vous demander qui est-ce qui le finance.
Qui est-ce qui finance quoi ?
L'organisme pour lequel vous travaillez.
On est une société privée de semences et de création de variétés nouvelles de pommes de terre. Donc,
qui finance la recherche ?
Nous. Enfin, notre production de nos semences et les redevances de nos semences, oui. Et je suis très très indépendante au niveau des produits phytosanitaires. J'ai la parole très très libre et tout ce que je vous ai dit, je le pense très sincèrement. Je travaille pour personne, absolument pas pour l'agrochimie. Et c'est bien, effectivement, vous avez formulé ce que j'aimerais bien que vous entrouvriez un petit peu, que vous ouvriez un petit peu, vous laissiez une petite latitude pour accepter ce que je vous dis. Et quand je vous dis que oui, il y a un groupe de personnes, d'encadrants, de techniciens qui croient à la notion d'agriculture, je revendique que depuis 10 ans, 12 ans, j'essaye avec les agriculteurs avec qui je travaille de leur faire appliquer pour la pomme de terre qu'ils cultivent, j'essaye de leur faire de la lutte raisonnée contre le mildiou. Contre ça, vous pourrez me griller la plante des pieds, je ne céderai pas. Et c'est bien. Vous avez très bien compris mon message. C'est si j'ai pu contribuer à vous dire, il y a des situations où c'est vraiment vrai et c'était bien ce que vous avez évoqué contre lequel je m'insurge, parce que si vous saviez l'énergie, le temps que ma société me donne, et regardez bien, c'est vraiment, ça dépasse largement les missions qui m'était donnée initialement. J'étais missionnée pour être à côté du sélectionneur et connaître l'ensemble des maladies de la pomme de terre pour décider, stratégiquement parlant, de savoir vers quel parasite on oriente l'amélioration de nos variétés. Et comme je vous l'ai dit il y a 20 ans, ce qui m'interpellait, c'était de savoir, mais là encore, les agriculteurs qui m'auraient entendu à l'époque auraient pu me traiter de bureaucrate qui émettait des jugements dans mon bureau, dans mon labo, et qui n'avait jamais été sur le terrain. Donc maintenant, j'ai été un petit peu plus sur le terrain. Et c'est vrai que ce qui surprenait des spécialistes, c'était de dire, on fait l'effort de sortir, de mettre sur le marché des variétés qui sont un peu moins sensibles, mais elles sont traitées de la même façon. Et sincèrement, je retiens ça parce que ça a été le moteur un petit peu du travail. Et c'est un travail d'équipe. Et sincèrement, pour la pomme de terre, ce n'est pas un vain mot. On n'est ni payé par la FNSEA. Je peux vous dire qu'avec les agriculteurs avec qui je parle, je fais ça, font partie de la Confédération paysanne. Enfin bref, je rentre pas trop dans ça parce que j'y connais. Enfin, chacun son truc, mais ce que je revendique, oui, qu'on essaye de faire de la lutte raisonnée contre le mildiou avec les outils qui sont à la disposition des agriculteurs qui sont en France et qui sont en Europe.
Madame, je respecte tout à fait votre démarche intellectuelle et votre sincérité, et j'adhère au même système de pensée en ce qui concerne les ruminants de rente. On a installé chez les éleveurs qui le désirent la même chose, de logiciels, d'aide à la décision pour le traitement contre les parasites. Bon, c'est pas encore très développé. Cela dit, vous nous avez quand même caché un petit peu les produits que vous utilisez, les produits de synthèse, on aimerait bien les connaître. Est-ce qu'ils sont en ligne sur le site de votre firme? Et est-ce que vous êtes distributeur de ces produits? Parce qu'il existe des produits rémanents, donc c'est déjà beaucoup plus facile d'obtenir des résultats avec des produits rémanants, donc qui empoisonnent un petit peu plus longtemps les plantes.
Non, mais je redis quelle est ma mission. C'est vrai que moi, je ne travaille pas du tout dans les produits phyto, en fait. Hein. Justement, en théorie et intellectuellement, justement, je suis dans la partie d'essayer de valoriser, un petit peu pour faire écho à ce que vous évoquiez, en théorie, l'idée, c'est de trouver chez la plante, chez la variété de pommes de terre, une défense naturelle, en fait. C'est ça notre mission. Hein. Et disons que je suis bien obligée d'en connaître un petit peu au niveau des produits phytosanitaires parce que ça serait me voiler la face que de me dire nous allons produire sans produits phyto. Je travaille en France, je travaille en Europe, je regarde ce qui se fait et je suis bien obligée, comme chacun de nous, de faire avec l'existant. Mais je ne vous ai rien caché du tout, c'est parce que je serais bien incapable là de vous sortir. Il y a quelques noms de matières actives que je pourrais vous lister, mais sincèrement, c'est pas mon quotidien. Et par contre, je sais dans mon bureau où aller chercher le bouquin qui va me dire tous les produits qui sont dûment enregistrés en France, ou même vous donner le nom, le numéro, l'adresse du site du ministère de l'Agriculture où vous pouvez avoir ces informations-là. Je vous cache rien du tout, mais il y a beaucoup de matières actives et beaucoup de produits. Alors, il y en a effectivement qui sont de chez Syngenta, chez Bayer, pour Dow Chemical. Et je suis bien obligée de les connaître, mais ça fait partie de... Enfin, ça ne fait pas partie de mon quotidien, mais encore une fois, je commettrais des fautes professionnelles si je n'avais pas un minimum de connaissances à ce niveau-là. Et je vous cache rien du tout. Hein. Ouais. Je crois que je ne suis pas claire encore. Si.
d'accord, j'adhère complètement.
Oui, mais enfin, si vous voulez, je pourrais vous envoyer la liste des produits, si ça vous...
Non, mais c'est important de savoir avec quoi on s'empoisonne. Il y a 10 jours, une émission à la télé où on se rend compte que sur la vigne, par exemple,
oui.
2% de la surface agricole de la
oui.
France,
oui.
Ils s'utilisent 30% des produits phytosanitaires utilisés en France.
Oui.
Donc on aimerait bien savoir quels sont les produits qui sont utilisés de façon même raisonnée, puisqu'on en est là.
Oui.
Qu'on sache exactement. Puis après, comme vous dites, par Internet, on peut aller voir.
Oui.
Parce que si on ne peut plus manger les pommes de terre du commerce, on va en planter un peu plus dans nos jardins.
Ah oui, c'est bon, il vaut mieux en planter déjà. Hein. C'est déjà.
Mais encore une fois, les produits phytosanitaires qui sont appliqués sur le feuillage de la pomme de terre, je vais réexpliquer. C'est des produits, ce qu'on appelle des produits de contact. Hein. Donc ils mimiquent quelque chose qui fait que, eh bien, la spore de mildiou ne va plus reconnaître le feuillage, les cellules de la pomme de terre. Mais c'est des produits, ce qu'on appelle des produits de contact. Donc, ils ne rentrent absolument pas dans le phloème, dans la sève de la pomme de terre. Et il en va de même pour la vigne. Parce que les parasites ciblés pour les maladies du feuillage, c'est des parasites du feuillage. Bon. Et donc, c'est ce qu'on appelle des produits de contact. Donc, ils restent en superficie, mais ils ne rentrent pas dans la circulation de la plante. Donc,
moi, je voudrais juste dire un peu quelque chose. Il existe donc des variétés qui sont plus résistantes que d'autres au mildiou.
Oui.
Donc, si on veut avoir une action un peu citoyenne quand on achète des plants de pommes de terre, on peut demander des plants plus résistants au mildiou afin de ne pas disséminer à tout vent le mildiou.
Ah, mais vous pourrez.
Alors. Mais ça, ce n'est pas tellement dit quand on achète des pommes de terre. Moi, j'ai acheté tout bêtement, je ne fais pas de jardin, là, j'ai débuté cette année, des plants de tomates.
Oui.
Et j'ai demandé au marchand, telle tomate, qu'est-ce qu'elle donne, pourquoi. Donc, on m'a dit, elle est plus tardive, elle est plus grosse, elle est plus petite. Donc, j'ai planté trois plants de tomates. Les tomates du milieu, mes trois plants, ont eu le mildiou.
Oui.
Elles ont toutes été décimées. Celles de gauche et celles de droite n'ont rien eu.
Bon.
Absolument rien. Mais le marchand ne m'a jamais dit, peut-être qu'il ne le savait pas, ces tomates-là résistent mieux au mildiou que l'autre.
Ben voilà. Donc,
l'année prochaine, je demanderai des plants résistants au mildiou.
Mais bien évidemment. Et puis, comme c'est l'université pour tout apprendre, ben
voilà,
si c'est ce que vous avez appris ce soir, ben c'est très bien.
C'était très bien.
Ben évidemment.
Si tout le monde faisait ça, peut-être qu'on aurait moins de mildiou dans nos jardins et on ensemencerait moins le jardin des autres.
Alors, pour continuer ce débat et vous dire que au niveau de l'Europe, les uns les autres en prennent conscience, il y a eu une tentative aux Pays-Bas. La variété de pommes de terre, une des variétés les plus sensibles au mildiou, c'est la variété Binch. C'est la plus vieille qui soit. Elle est super pour plein d'autres choses. Elle a des qualités culinaire incontestable, mais elle a le grave défaut d'être très sensible au mildiou. Et aux Pays-Bas, il y a eu une tentative de communiquer vers le public et une grande chaîne une chaîne de distribution qui s'appelle Albert Heijn a dit, eh bien moi je vais m'engager, je ne vais plus mettre à l'offre, à l'achat de la Binch, parce qu'on sait qu'elle aura été protégée. Ça a fait, je crois, c'était une tentative faite il y a 10 ans. Ils ont communiqué dans la presse en disant pourquoi cette démarche-là. Il faudrait que je me rapproche et de savoir jusqu'où ils ont pu tenir, mais si le consommateur non averti eh ben, pour des raisons, parce qu'il aime bien la binge, il a envie de trouver de la binge, eh ben, on en retrouvera sur le marché. Mais effectivement, pour rejoindre l'action citoyenne de madame, eh ben, ça pourrait être ça, c'est de cette trempe-là, de dire, on ne va acheter que des variétés que l'on sait qui n'auront pas eu trop d'intrants phytosanitaires. Ça peut très bien être une démarche. Voilà. Et puis, c'est à chaque fois empiler de la connaissance. Donc, effectivement, ben c'est très bien si vous retournez l'année prochaine à la jardinerie en disant, ben dites, moi, je voudrais connaître davantage les... J'ai pas envie de mettre de bouillie bordelaise sur ni mes tomates ni mes patates. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Bien sûr. C'est...
Oui, j'aurais voulu... Vous avez évoqué tout à l'heure entre une pomme de terre, je dirais, dopée, boostée et la culture intense, et une pomme de terre pas trop, enfin même pas du tout intensifiée au niveau de son sol. Il y avait une différence notable entre le mildiou qui s'attaquerait plus à la plante dopée. Est-ce qu'on sait le mécanisme? Pourquoi cette plante est plus sensible au mildiou?
Disons qu'il y a des éléments de réponse, mais c'est vrai que c'est pas, c'est, je dirais même dans les années 1900, on l'avait vu de façon empirique. Hein. Mais non, les mécanismes intrinsèques, je sais pas vous dire. C'est que ben, peut-être des cellules plus riches en eau. On sait que s'il y a beaucoup d'azote dans le feuillage, ben ça fait un feuillage cassant, plus vulnérable. C'est vrai que je n'ai pas fouillé cet aspect-là, mais c'est connu. Enfin, on le sait. Sauf qu'un agriculteur à cette heure-ci, il privilégie. Il va mettre tout en œuvre pour avoir le maximum de rendement, effectivement.
C'est comme la pomme de terre, c'est comme les coureurs du Tour de France, quoi. Plus ils sont chargés, plus ils sont fragiles. Non, c'est pas le cas. On va peut-être, je sais pas s'il y a encore. Ça vous intéresse sacrément le mildiou. Hein. C'est incroyable. Il était temps qu'il y ait une spécialiste du mildiou qui vienne nous voir. Parce que ça devenait grave, il y avait de la tension. Hein. Je m'interrogeais comme ça. Dans mildiou, il y a diou. Donc, et diou, ici, dans 20 diou d'ours, par exemple, c'est Dieu. Et pourquoi il y a Dieu dans mildiou. Il n'y aurait pas la patte du divin ou...
Bah, tu vois, j'ai déjà mis la patte de l'homme. Il y a peut-être la patte du divin. Alors ça, non. Moi, j'assume pas. Dieu, non, ça vient, pour être très puriste, ça vient de l'anglais. Mild dew. Dew de rosée, en fait. Voilà. Voilà.
Encore un truc qui vient de l'anglais.
Oui, tu voulais éviter ça.
Ouais, je croyais qu'en anglais, mildiou, ça se disait... Thousand Gods. C'est quelqu'un qui me l'a soufflé. Bon, ben voilà, merci. On peut l'applaudir quand même.